Alors, quelques exemples de ce qu'on dit concernant le bruit. Alors, ce sont des témoins qui disent ça. Et c'est répercuté par Internet. Les témoignages remontent souvent aux années 80 et puis il y en a de récents. Alors, donc, un parc éolien fait un bruit d'avion au décollage, un bruit de vieille botte dans une machine à laver. C'est comme un avion en approche qui n'atterrit jamais. Toute la vallée vibre. Quelqu'un qui dit ça à 7 km. Un bruit très fort, un beuglement, même avec deux bouchons dans les oreilles, rien n'y fait, à 11 km, un bruit d'aéroport. C'est assez effrayant. Même quand les éoliennes ne tournent plus, on continue à les entendre. Alors là, le premier témoignage en haut, je ne veux pas être désobligeant, mais non, c'est le deuxième plutôt, qui me fait penser à une sorte de schizophrène, qui est des hallucinations, parce que dans la nuit, quand il entend les éoliennes, il se retrouve dans l'allée, il essaie de fuir des scorpions et des serpents. Enfin, bon, le style n'est pas très bon parce que c'est traduit par moi de l'anglais australien. Mais même au début, coup de marteau dans la tête, etc. C'est quand même effrayant. Et il y a bien pire. Je vous le dis très clairement, il y a un témoignage, une sorte de journal d'un homme qui vit à 11 km d'un parc éolien en France. Et quand on lit ça, on pleure et on se dit il est à deux doigts du suicide. Probablement que depuis la sortie du texte, il s'est suicidé. C'est-à-dire qu'on lit ça, c'est effrayant. Donc voilà, voilà où on en est, quoi. Donc, qu'en est-il finalement, quoi. Alors voici le baron Armand de Calataï, ou Calaté, je ne sais pas comment on dit, c'est un Belge. Donc il s'agit d'un site web qui est un groupe d'information sur les éoliennes, qui en réalité ce monsieur tout seul, qui accessoirement nie le réchauffement climatique. C'est un docteur ingénieur en électromécanique. Et donc, selon lui, la croissance des parcs éoliens, c'est l'amiante de notre temps. Donc, n'attendons pas 20 ans avant de prendre les mesures. Alors, donc, on parle en fait de Winter Wind Syndrome, ou syndrome éolien, le mal des éoliennes. Donc, ça va être l'ensemble des maladies humaines et animales qu'on attribue aux parcs éoliens. Voilà, dans les témoignages, alors il faut bien comprendre que sur les sites web anti-éoliens, ce sont essentiellement des collections de témoignages, hein, des cas particuliers récoltés dans le monde entier, parfois traduits, etc. Donc voilà, des faits difficilement exploitables en tant que tels, mais très impressionnants. Voilà. Bon, un exemple de photo qu'on trouve, cette dame avait le diabète, on a mis un parc éolien et son taux de glucose a augmenté forcément. Voilà, et a développé une cataracte. Bon, je vous verrai la série des trucs où on voit tout de suite que c'est l'âge tout à tout. Non, attention, j'ai 3 pages de maladies, il y en a plus de 230. Sans compter les maladies du bétail. Des problèmes de sommeil. Hein. Alors, des nausées, vertiges, sensations de pulsation, tremblement des lèvres, maux de tête, migraines, troubles de la vision, agressivité, irritabilité, instabilité, l'humeur, anxiété, stress. Panique à 10 km, ça c'est les choses les plus fréquentes qui sont dites. C'est en fait la partie la plus précoce de la théorie du syndrome éolien. Et alors selon les cas, on dit que ça apparaît dès 10 minutes, j'arrive sur le parc éolien et ça y est, j'ai tous ces mots, ou fait une partie. Et quand on dit oui, mais regarde, dans ce cas, tu es venu là, tu ne l'as pas eu, ou je ne l'ai pas eu. Ah oui, mais non, mais c'est que ça s'accumule, il faut attendre 10 ans. Voilà. Donc, quel que soit l'argument, c'est l'un ou l'autre, en fait, et on va le voir revenir. Bon, hallucination, dépression, etc. Enfin, il y a une. Alors, l'échec scolaire, c'est dû aux éoliennes, c'est rassurant quand même. À moi, ce n'est pas ma faute. Alors, l'épilepsie, là, c'est un cas qui pourrait être attribué, effectivement, on va voir ça. Hyperacousie, alors je ne voulais surtout pas penser que je suis désobligeant parce que je souffre d'hyperacousie et d'acouphènes. Donc voilà quoi, les gens qui se plaignent de ça, je ne méprise pas. Alors, j'ai mis une barre verte devant une série de troubles qui, moi, me rappellent tout simplement le vieillissement. Je dois changer de lunettes au bout de 2 ans, l'acuité auditive baisse au bout de 20 ans, douleur à la hanche, incontinence urinaire, arthrite, ça fait quand même quoi.
Ça fait des bouquirox, nouvelle formule.
Oui, alors on pourrait, bon, peut-être que les éoliens pourraient vieillir plus vite, mais je ne sais pas quoi.
Voilà.
Et puis alors on y va avec les troubles menstruels, fausse couche, stérilité, les hémorragies de toutes sortes, les cancers de toutes sortes, l'aggravation du diabète, hyperthyroïdie, allergie, des maladies infectieuses, des eczémas, tout ça, ulcères. Alors, les triglycérides, alors le collagène qui augmente ou diminue, selon les cas, parce que c'est des médecins, souvent généralistes, ont fait faire des analyses, ils ont constaté, et alors c'est transmis, et puis ça s'accumule sur les sites web anti-éolien, c'est ça le problème. Quoi.
Comment ça se
passe
le collagène?
Alors ça, je ne sais pas. Alors là, je ne suis pas médecin.
Collagénomètre.
Je suis même pas sûr que toutes ces maladies ne sont pas certaines les mêmes.
Mais ça se dose pas le collagène.
Écoute, j'en sais rien. Écoute. Ou alors à l'autopsie, je sais pas.
Ah oui, non, mais même à l'autopsie.
Ah oui. Écoute, voilà quoi. Mon problème cardiaque.
On ne dose pas le collagène, non.
Non, mais écoute, je suis pas médecin.
Non, mais ça, c'est ce qu'il y a sur les sites.
C'est ce qu'il y a sur les sites, et donc voilà. Ça vient souvent de médecins généralistes qui envoient des informations parce qu'ils ont constaté des coïncidences. Il y a aussi des médecins, les leaders sont des médecins qui, une qui n'a jamais exercé, ni fait de la recherche. Elle a le doctorat, puis elle est devenue militante. Et une autre qui est pédiatre et qui a pondu une théorie sur le système auditif, etc. Bon, c'est l'inventeur-trice, l'inventrice, on va dire, du Winterbrain syndrome. Bon, là aussi, donc, garantie, témoignage ou avis d'expert indépendant pour la destruction de l'hypophyse, carrément. Voilà. Donc, oui. Et puis, des propos que j'ai entendus en réunion publique. Oui. Non, mais.
Dès qu'on est dans du verre,
c'est. En fait, c'est lié. On le verra, c'est lié au fantasme sur les armes infrasonores que les Américains ont concoctées pour dominer le monde, etc. Voilà. Donc, le problème, c'est qu'en réunion publique, on entend des choses demi-sérieuses, parfois ils ont cru des choses qui avaient l'air sérieuses, etc. Et puis parfois, c'est du n'importe quoi. Voilà. Et c'est. Bon, voilà, on verra. Alors, les animaux, il y en a une foule aussi. D'accord. Alors, les problèmes de l'élevage, on sait très bien que c'est soit le problème des lignes à haute tension, soit le problème des éoliennes. Et c'est pas parce qu'on a mis des centaines d'animaux dans une seule cage, etc. Quoi. Voilà. Et donc, mortalité. Il y a un cas spectaculaire. Ce qui fait, c'est le chien qui se gratte, oui. Les moutons qui chutent une falaise, c'est pas parce qu'ils ont été poursuivis par le chien errant. Les chouages qui donnent faim, oui. L'extinction des abeilles.
Comment on le sait
qu'ils
sont
désorientés? C'est une expérience de labo, en fait. Alors, je ne me souviens plus exactement. Mais c'est une expérience de labo, je crois. Alors, ce que j'ai mis, des cas, là. C'est le cas assez récent, on a parlé un peu dans la presse, et qui a disparu ensuite, ce qui fait hurler à la censure. Donc c'est un élevage de centaines de visons, tous entassés, femelles d'un côté et mâles de l'autre. Les femelles sont mises à faire des fausses couches, des fœtus anormaux, etc. Les mâles se sont entretués. Elles ont mis des dizaines de mâles dans une même cage, en général, bon. Et or, c'était à 100 mètres d'une éolienne. Les vétérinaires ont déclaré que c'était la faute aux éoliennes. La presse locale l'a répercuté. Puis rien de plus.
Dans quelle région?
Au Danemark. Des cas. L'agriculteur ainsi martyrisé n'a pas porté plainte contre l'exploitant du parc éolien. Il n'a pas déclaré la moindre chose à l'administration. Donc on ne sait pas trop ce que c'est. Mais ça, c'est populaire. Le stress des blaireaux à 1000 mètres, en réalité, c'est une augmentation du cortisol sur un échantillon de 9 individus, dont les deux tiers à moins de 150 mètres. Moi, je veux bien comprendre, je veux bien croire qu'à moins de 150 mètres, les blaireaux soient stressés, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais bon, ensuite, le reste, c'est anecdotique. Voilà, donc il y a du bon et du mauvais, si vous voulez. Alors, première objection, et si on avait eu de tels dégâts, comme c'est dit, imaginez le Danemark à gauche, l'Allemagne à droite, Danemark en 2007, Allemagne en 2011, et chaque tâche est un parc éolien. Imaginez si ces désastres avaient lieu dans ces pays, ça fait longtemps qu'il y aurait eu une insurrection, c'est très clair. Alors, le Danemark, c'est un peu exagéré, parce qu'ils ont commencé très tôt avec des éoliennes 10 fois moins puissantes qu'aujourd'hui, donc il y a aussi les anciens parcs qui maintenant sont remplacés par moins d'éoliennes plus puissantes. Voilà. Donc voilà une première réponse en fait. À propos des animaux stressés, traumatisés ou affolés, bon, j'ai fait exprès de prendre des photos où on est sûr que l'éolienne tourne. C'est trop facile sinon, évidemment. Là on voit une vache qui rumine sous l'éolienne. Bon, là on a des moutons. Là d'autres vaches, vu l'inclinaison des herbes, on sait que c'est en train de tourner. Voilà. Donc encore une fois, on perçoit déjà que c'est des tas de coïncidences très dispersées qui sont interprétées et ensuite mises ensemble. Voilà. Alors l'origine du Winterbourne Syndrome, donc c'est Nina Pierpont, mondialement célèbre dans ce milieu-là, une pédiatre américaine. Un jour, elle a appris qu'on voulait installer un parc éolien à côté de chez elle, et donc elle est partie en guerre. Et elle a fait des études, des questions du bruit, des impacts du bruit, etc. Elle a essayé d'élaborer, elle s'est renseignée sur des symptômes attribués aux éoliennes, tout ça. Bon, elle n'a jamais rien publié en revue scientifique, en fait c'est un e-book. Elle a commencé à parler en 2005, elle a montré des travaux, puis elle a publié l'e-book en 2009, qui a aussitôt fait une traînée de poudre. Voilà. Et puis, depuis, elle fait de très nombreuses déclarations dans les commissions parlementaires, lors d'enquêtes publiques, etc. Quoi. Et elle est vraiment, si vous cherchez le site anti-éolien de référence, c'est son site, winterwindsyndrome.org, je crois. Et après, sinon, vous avez les sites de Fédération Environnement Durable en France, et puis tout ça se renvoie les uns aux autres. Je suis désolé de la richesse du transparent, hein, c'est détaillé. Donc, elle a lancé un appel à témoins. Si vous avez des problèmes que vous pensez dû à un parc éolien, contactez-moi. C'est comme ça qu'elle a fait. Elle a sélectionné 38 personnes vivant dans 10 maisons, entre 300 et 1500 mètres de parc éolien. En fait, elle n'a interrogé que 23 personnes et seulement par téléphone. Et certaines de ces personnes ont témoigné concernant d'autres personnes. Voilà. Bon, elle a mis des critères de sélection. Donc ces personnes disent qu'elles ont des troubles qui ont commencé après la mise en service du parc. Elle les attribue aux éoliennes. Elles ont pris des mesures qu'elles pensaient protectrices. Et il se trouve que quand elles s'éloignent ou quand elles déménagent, les troubles disparaissent ou ont été réduits. Bon, évidemment, quand on fréquente le cercle de l'éthique, on sait à quel point tout cela est imprégné de psychologie, non pas seulement de faits. Voilà. Elle a compilé les troubles signalés, qui sont justement les troubles classiques qu'on a tous les jours, quoi. Hein, mal de tête, troubles du sommeil, des tas de choses, tachycardie, irritabilité. Et ce sont aussi des troubles qui apparaissent quand on est exposé à un bruit excessif pendant longtemps, d'où l'ambiguïté. Elle a vérifié les antécédents personnels ou familiaux par interrogatoire des personnes, et certaines n'ont pas d'antécédents, mais pas toutes. Donc là, elle ne s'est pas précisée. Et puis, elle s'est renseignée sur les effets du son, mais à partir des études sur des sons qui sont dans les fréquences de plus de 20 Hz et à des niveaux assez élevés, intensité assez forte. Et puis, les effets des vibrations à haute intensité. Elle a vu aussi que une étude suédoise disait que la modulation, on va l'entendre, du son, c'est-à-dire qu'il devient tantôt un peu plus fort, tantôt un peu plus faible, tantôt un peu plus fort, un peu plus faible, à environ une seconde chaque fois, ça rend le bruit plus gênant. Et elle a confondu modulation très basse fréquence, onde à basse fréquence, onde à très basse fréquence, elle a tout mélangé, sans tenir compte, si vous voulez, de la nature physique. Voilà, elle a fait un tout. Ça a permis ensuite, et ensuite elle n'a pas tenu compte du tout de l'intensité. Donc, plus faible, plus fort, c'est pareil. Et elle a imaginé, après avoir examiné l'appareil auditif, tout ça, un mécanisme de résonance viscéro-vestibulaire. Alors, les viscères, vous connaissez, le vestibule, c'est dans l'oreille interne, qui rendait sensible aux informations, les infrasons qu'on entend qu'à très forte intensité. Ils sont à des fréquences de moins de 20 Hz. Le Hz, c'est le nombre de cycles par seconde, le nombre d'oscillations par seconde. Voilà. Et elle a conclu, les mots qu'elle a recensés sont dus aux infrasons. L'avantage de parler d'infrasons, c'est qu'on ne bute pas sur l'obstacle. Oui, mais c'est du bruit inaudible. Or, on a montré, des expériences sur le bruit ont montré que quand il est très faible, il n'a pas d'effet. Mais si vous parlez d'infrasons, le problème est, on sort du domaine, quoi, donc on peut échapper à cet argument. Donc elle a popularisé grâce à Internet, elle a lancé un nouveau appel à témoignages. La liste des mots posés par les éoliennes s'est allongée, c'est pour ça qu'elle est devenue si longue. Elle a même inclus les champs électromagnétiques parmi les causes, alors qu'avant c'était que le bruit. Donc ça s'est propagé encore et ça fait boule de neige. Il y a quelqu'un qui lit le livre, il attribue ses mots quotidiens aux éoliennes, il les signale, ça allonge la liste et si ça n'y était pas, ça fait de nouveaux témoignages. Donc voilà un exemple de truc qu'il a fait aux États-Unis. Fatigué d'être malade et fatigué, rapportez-le. Et ça alimente le fichier. Comment? Non, c'est un, un panneau publicitaire, si j'ose dire. Voilà, à côté de... Contactez-nous,
oui. Ah oui, bon titre.
Voilà, c'est ça, contactez-nous. Bon, là, on va passer parce que c'est la compilation de tous les défauts. C'est des autodiagnostics, des attributions dose effet, attribution spontanée. Elle ne fait pas d'étude dose effet. Elle dit clairement qu'elle refuse parce que c'est trop fatigant. Enfin, oui. Elle dit pas que c'est trop fatigant, mais voilà. Et puis alors, sa résonance viscéro-vestibulaire est assez marrante parce que d'abord, il n'y a pas de capteur de vibration dans l'abdomen. Et en plus, nous sommes trop petits pour qu'il y ait une résonance, c'est-à-dire une auto-amplification de l'onde quand elle est piégée dans un espace qui correspond à sa longueur d'onde ou à un multiple. C'est pas possible, on est trop petits pour ça. Et vous allez voir un truc comique, c'est ça. Ça, c'est sur le site web. Hein. Alors, c'est spectaculaire, c'est que ici à gauche, là, une éolienne en marche, ils ont visualisé les vibrations sonores émises en émettant de la fumée, là, et en l'éclairant. Donc là, vous avez des zones sûrement de surpression où la poussière est cachée et chassée. Et vous voyez la taille de ces zones de surpression. Là, le mâle, il fait facilement 3 mètres de large. Donc les tailles, c'est ça. Or, l'ovaire, il est minuscule, ce qui signifie que la surpression... Il reçoit la même pression de l'intérieur et de l'extérieur quand l'onde passe à 3 fois rien près. Donc il ne peut pas être comprimé, ni dilaté, ni rien du tout. Il ne ressent rien, l'ovaire, et notre corps entier ne ressent strictement rien. Encore une fois, parce que nous sommes trop petits par rapport à la taille, par rapport à la longueur d'onde, par rapport à la taille des surpressions. Voilà, nous sommes surcomprimés à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, et donc ça s'équilibre. Et ça, c'est évident, c'est flagrant, quoi. C'est la même chose que pour la résonance des viscères qu'elle disait. Nous sommes trop petits. Pour ça, la maladie vibro-acoustique est un avatar de ce truc-là, mais c'est une version portugaise, donc je laisse passer. Voici la preuve que les éoliennes perturbent le sommeil, une étude donc statistique. Trois questionnaires sur la qualité du sommeil, standardisés, on répond à des questions qui permettent de déduire. Et il se trouve qu'en fait, c'est statistiquement pas du tout significatif. Bon, ici vous avez la ligne moyenne en noir continu, on voit qu'effectivement elle monte quand on se rapproche des éoliennes. Pas de problème, hein, entre 0 et 1300, c'est globalement plus haut, oui, mais enfin il n'y a que 4 points qui sont vraiment au-dessus des autres. Ensuite, ceux qui sont éloignés là vers 3400 jusqu'à 6500 mètres, ben, ils ne sont pas nombreux par rapport à l'ensemble de la population qui habite à une telle distance. Parce que plus on s'éloigne, hein, plus la population comprise dans un certain anneau augmente. Les points les plus proches, ils représentent grosso modo 10% de la population concernée. L'Ouest, ça représente 3 points, un 30e. Et donc, c'est pas forcément représentatif. Et puis, regardez les pointillés, c'est la marge d'erreur, en fait. Et vous constatez que c'est tout à fait compatible avec une pente nulle.
L'écart.
Et c'est pareil concernant les autres questionnaires.
L'émission
élevée, ça veut dire que c'est le son reçu des éoliennes sans tenir compte du bruit de fond, ce que l'éolienne envoie vraiment. Alors c'est fonction de la distance, et il se trouve que ce sont des cas où l'émission est assez élevée par rapport à ce que je pratique en France. Parce qu'il y a des pays, surtout aux États-Unis, où on fait des... Là, apparemment, c'est même en Suède, et même aux États-Unis en haut, on fait facilement des parcs de 60 éoliennes à terre. Aux États-Unis, ils ont fait n'importe quoi pendant 10-15 ans, et vraiment n'importe quoi, vous allez voir après. Alors, voici la preuve, soi-disant, selon Nina Pierpont, de la preuve irréfutable que les éoliennes augmentent le taux de suicide. Alors, c'est donc un économiste, un doctorant en économie, qui a relevé le nombre de suicides, le taux de suicide, dans les comtés situés à moins de 25 km d'un parc éolien, c'est-à-dire qu'il y a au moins une commune qui est à moins de 25 km. Il a relevé les taux de suicide dans les 24 mois précédents et les 11 mois suivants la mise en service. Et il a fait donc la moyenne mois par mois, hein, de tous les parcs. Et alors, il a pris la moyenne avant, la moyenne après. Ah ben, la moyenne après est plus haute, donc les éoliennes augmentent le taux de suicide. C'est ça sa conclusion. Moi, ce que je vois ici, je sais très bien, c'est vu l'ampleur des comtés, ça n'a aucun sens. Et si on fait plus petit, le taux de suicide n'a aucun sens. Donc, il ne peut rien trouver. Moi, la première chose que j'ai vue en regardant ça, c'est que regardez, c'est un nuage ordinaire qui monte au fur et à mesure. Hein. Et le taux de suicide national, c'est la croissance du taux de suicide national sur la même durée. Donc, en fait, on pourrait en déduire que les éoliennes réduisent le taux de suicide. C'est génial. Voilà, donc c'était la preuve que... Bon. Et pourtant, le témoignage dont je vous ai parlé me laissait subodorer que le mec allait se suicider. Mais c'est pas statistique. Alors là, désolé, là c'est trop complexe, mais je vous le dis simplement, en termes populaires, disons. Donc c'est quelqu'un qui avait remarqué qu'il y avait un bruit distinct de la boîte à vitesse de l'éolienne, à peu près 23 Hz, et qui dépassait un seuil de sensibilité défini par deux médecins qui disaient que si on est capable de percevoir les sons en dessous du seuil d'audition par d'autres cellules qu'on appelle les cellules ciliaires externes, alors le seuil devrait être ça, étant donné ce qu'on sait du rat. Voilà. Et lui va montrer que ça se produit dans ce cas-là. Donc ça, c'est une étude faite à la demande d'un particulier par deux experts acousticiens libéraux. Et alors, ils ont fait un traitement numérique qui est tout à fait valable, a priori, mais ils ont découpé le son en tranches de 23 millisecondes, et sur chacune des tranches, ils ont évalué l'amplitude de cette oscillation à 23 Hz. Et comment il évolue au cours du temps, ils voulaient vous montrer ça. Le problème, c'est qu'avec 23 millisecondes de durée de chaque morceau, il est impossible d'analyser des fréquences inférieures à 43,5 Hz. Donc en fait, ils n'ont strictement rien trouvé, et quiconque a la moindre formation en théorie du signal le sait. Et ces gens-là sont des experts libéraux qui se font payer pour... Et là, je suis très interloqué. Voilà. Est-ce qu'ils sont incompétents, ou est-ce qu'ils sont malhonnêtes à ce point-là? Je ne sais pas. Voilà. Alors, sur la foi de la reconstitution qui ne vaut rien, ils ont vu sur la courbe, déjà la forme de la courbe, c'est là que ça met la puce à l'oreille. Il y a des creux et des pics là qui font 10 décibels, et étant donné leur brièveté, ça a donné comme conclusion, chez eux à demi-mot et les autres sites web à fond, des coups de marteau dans la tête toutes les 43 millisecondes. Voilà. Et tout, forcément, des effets. Voilà. Alors, ça, c'est j'ai découvert. Avant-hier, je crois, ou avant-hier. C'est tellement gros que j'ai cru que c'était une blague, vous savez, un pastiche. Alors en fait, depuis l'assassinat de Kennedy, tout est connecté. Et donc les chemtrails, ça allait traîner dans le ciel. Les expériences sur la conductivité de l'ionosphère pour faciliter les transmissions radio. Les expériences de physique des particules, les éoliennes, le gaz de schiste. Et puis le bouclier spatial, je ne sais pas quoi, tout ça est connecté, c'est des différents moyens techniques de prendre le contrôle des esprits pour le mettre à disposition du gouvernement.
On peut rajouter
les outils. Comment ?
On peut rajouter les outils.
Et alors justement, les éoliennes et les centrales solaires, étant donné la nécessité de gérer l'intermittence en ajustant consommation et production, sont le prétexte pour installer Linky, qui est le prétexte pour nous envoyer des ondes qui nous contrôlent le cerveau. Voilà, exactement, j'avais oublié de le dire. Je vous fais remarquer que cette dame est justement des écoles Steiner, elle y enseigne. Et elle est rédactrice du magazine Paranoia. Alors là, je me suis... Voilà. C'est là que je me suis dit, c'est sûrement un pastiche.
Non.
Ah, mais c'est totalement parano. Il faut lire les sites web, c'est hallucinant, quoi. Oui, tout à fait.
Alors, les centrales nucléaires, c'est bien.
Ouais. La grande migration. Alors, on trouve ça maintenant, c'est depuis quelques années, hein, des centaines, voire des milliers, ça dépend, hein, de riverains, donc ils partent en exil. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire les villes, ils n'aiment pas des casards. Oui, c'est. Bon. Et en fait la source primaire, hein, c'est le site web de la fondation WOPRA, qui est une fondation, une association donc composée, les membres fondateurs et dirigeants sont des propriétaires ou PDG d'entreprises du charbon, du pétrole et du gaz. Bon, c'est le hasard. Ils ont aussi fondé parallèlement une association de protection du paysage, qui est à la même adresse, à les mêmes dirigeants, et dont le site web ne donne rien. Aucun ne dit rien de l'impact paysager des mines de charbon à ciel ouvert.
Voilà.
Voilà. Et alors, WOPRA affirme que 80 familles ont abandonné en hâte leur domicile sans le vendre, pour se mettre à l'abri. En fait, donc, Chapman, le chercheur, les a interrogés. Ils n'ont pu citer que 40 familles. Et en fait, en interrogeant ces personnes-là, on s'est aperçu qu'aucune n'avait fui. Il y a des gens qui ont trouvé des boulots en ville, ils n'ont pas voulu vendre la maison parce qu'ils revenaient le week-end. Il y a des gens qui étaient opposants de première heure, quand ils ont perdu, ils ont décidé de partir. Il y a des gens qui avaient vendu d'avance leur terrain parce que le promoteur du projet leur avait dit on aimerait bien mettre une éolienne, mais c'est trop près de chez vous, alors est-ce que vous acceptez qu'on vous achète la maison pour mettre l'éolienne ou bien vous restez, on ne la met pas. Donc ils ont eu le choix, ils ont choisi de vendre. Donc il y a eu différents motifs d'éménagement prévu de longue date. Donc en fait, quand on fait l'inventaire, on ne trouve plus rien. Aux États-Unis, en tout et pour tout, ils ont réussi à recenser 6 familles qui disent avoir déménagé à cause des nuisances, mais elles ont eu le temps de vendre. En Allemagne, 2 familles recensées. En France, d'après la Fédération Environnement Durable, c'est une famille, d'après ce que j'ai vu, peut-être 2. Voilà. Donc c'est la grande domination. Alors là c'est, rassurez-vous, c'est de l'humour. Hein. Regardez, la croissance de la puissance éolienne produite aux États-Unis, ou de, non, de l'énergie plutôt, aux États-Unis, et la croissance des attaques de requins en Australie. Voilà. Donc,
belle corrélation,
oui, les fameuses corrélations fallacieuses. Voilà. Bon, c'est de l'humour. Alors, les causes du syndrome éolien, qui sont des causes putatives, ben, en fait, et puis en fait, ce qui crée une gêne, parce qu'en fait, c'est la gêne qui est importante, parce que quand on est gêné, on peut développer toutes sortes d'autres choses ensuite. Bon, il faut faire abstraction du vocabulaire des anti-éoliens, puisqu'ils remplacent gêne et trouble par détresse, systématiquement. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Donc, ils peuvent citer une étude scientifique très sérieuse, mais quand l'étude conclut qu'il y a une relation entre la gêne et la distance à l'éolienne, ils concluent que, enfin, eux disent qu'il y a une relation entre la détresse. Et voilà. Donc, c'est bon. Voilà. Donc, il faut faire gaffe à ce sujet. D'abord, le fameux effet stroboscopique, qui n'existe pas. En tant que stroboscopique. C'est un mot mal choisi qui a été malheureusement repris par les services officiels en France récemment. Alors c'est censé provoquer l'épilepsie, les nausées, etc. Alors attention, il y a du vrai et du faux là-dedans. D'abord, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Bon, vous voyez le problème, c'est que si vous êtes trop près d'une éolienne, les pales cachent une partie du soleil régulièrement, hein, à peu près les fréquences de 0,3 à 1,5 Hz. Hein. Grosso modo, une fois par seconde. Voilà, mais étant donné la fréquence, ça ne peut pas déclencher l'épilepsie, alors que les militants éoliens le disent. Hein. Étant donné la fréquence, c'est pas possible. Mais quand même, c'est très gênant. Et alors, si on est trop près. Alors voici, hein, faut pas le nier. Heureusement, en France, on n'a jamais mis d'éolien aussi près. Voilà, donc là, au début, il y a un discours. Hop. Ça. Donc ça, c'est dans le Wisconsin, un des états les plus anti-éoliens des États-Unis. Bon. Alors, hein. Il y a du bruit de fond. Oui, mais c'est le bruit du vent aussi. Hein. Mais on y reviendra au prix de l'éolienne. Mais le fort en parle de vent. Hein. Voilà. Mais évidemment, si vous avez ça, bah, c'est emmerdant. Incontestablement. Pareil, dans le salon, bon. Hein, voilà. Et aux États-Unis, malheureusement, il s'en est fait beaucoup comme ça, parce que tout simplement, les gens en question ont vendu une parcelle au parc éolien pour gagner de l'argent, et après ils ont été déçus. C'est comme pour le gaz de schiste, en fait. Donc, après, il y a un discours, bon, voilà. Donc, voilà, là, sur la route. Embêtant. Oui. Voilà. Non, bien sûr, mais quand tu habites à la campagne, tu es habitué à ne pas avoir ça. Si tu te retrouves avec l'ambiance Blade Runner, tu deviens un con.
C'est la nuit en dehors.
Cela dit, il y a plein de conditions à réunir pour que ça se produise. Et pureté de l'atmosphère, hauteur du soleil, distance à l'éolienne, etc., etc. Ce qui fait que l'effet est important à 200-300 mètres, il est négligeable au-delà d'une distance de 10 fois le diamètre. Ça, c'est dû à la proportion entre la largeur et la longueur de la pale. Et en plus, pour des raisons de hauteur du soleil, ça se produit un certain nombre de jours par an, hein, en deux saisons. Et par jour, ça se produira, disons, une demi-heure au maximum. Donc, c'est quand même pas la fin du monde. Cela dit, c'est quand même une gêne. On aurait mieux fait de prévenir les gens avant de leur dire. Voilà, avant de leur mettre. Alors évidemment, on s'est mis à faire des études d'impact, donc des contours là qui disent si vous êtes ici, vous aurez tant d'heures par an avec ce problème, et ça permet aussi de savoir à quel point il sera fort. Parce que s'il n'a pas l'occulte moins de 25% du soleil, on ne voit presque rien. Alors il y a eu progressivement une jurisprudence en Allemagne, en Belgique, et la France l'a adoptée finalement, sous forme de décret. Voilà. Donc maintenant, on fait une étude d'impact, et il ne faut pas dépasser plus de 30 heures par jour et 30 minutes par jour, en moyenne interannuelle, parce qu'il y a la météo qui change d'année à l'autre. Et je signale quand même que comme, de toute façon, il y a une règle de 500 mètres en France, une limite, on ne peut pas mettre en place, le phénomène est assez faible, et quand on est chez soi, on allume une lampe, et ça y est, c'est réglé. Donc une lampe pendant 30 minutes, c'est pas rédhibitoire. Encore une fois, il vaut mieux avoir fait le plus. Les champs électromagnétiques. Alors, si fort que mon téléphone portable s'allume tout seul quand j'approche des éoliennes. Elle est forte. Moi, le mien, il s'allume tout seul. Je l'ai mis là-dedans, il s'allume vraiment tout seul à tout moment, dès que j'ai les fleurs. Alors, j'ai mis le dragon parce que c'est génial. La peur des champs électromagnétiques. Laissez tomber les détails. Je veux dire simplement qu'il y a des normes qui ont été définies avant tout pour les travailleurs, pour protéger leur système nerveux central. Et aussi, pour protéger le reste du corps, il y a un seuil au-delà duquel il faut se demander si l'intensité du courant dans le corps n'est pas excessive. Ce n'est pas un seuil de danger, mais un seuil où il faut s'interroger. Et à partir de ces travaux sur les travailleurs, qui sont exposés toute leur carrière, on a défini une limite de 100 microtesla pour le public. Le champ magnétique, 100 microtesla pour le public, s'il oscille à une fréquence de 50 Hz, c'est la fréquence du courant qui nous éclaire. Il y a aussi le risque de leucémie infantile. Alors, les champs magnétiques à 50 Hz sont classés cancérogènes possibles par le CIRC, c'est-à-dire le statut du café et des cornichons en boîte, en vinaigre. Voilà. Parce que de nombreuses études épidémiologiques ont trouvé qu'il y avait un doublement de l'incidence de leucémie sur les enfants s'ils étaient exposés à plus de 0,4 microtesla en permanence. Mais le problème, c'est que les études sur l'homme n'ont pas commencer par déterminer quel était vraiment le champ magnétique auquel ils étaient exposés. Ils ont considéré qu'ils sont à telle distance d'une ligne et puis c'est tout. Voilà, la maison est à telle distance, mais ils n'ont pas assez à chercher à savoir s'ils ont toujours vécu là, etc., etc. Et puis, chez l'animal, on n'a observé aucune association entre le champ magnétique et la leucémie infantile, ou plus tard, même à des champs mille fois plus élevés et même avec toute une vie. Et en plus, on ne connaît pas de mécanisme causal qui pourrait. Alors là, c'est un grand mystère. C'est tout. Mais de toute façon, c'est pas grave. Parce que les éoliennes, comme une éolienne à haute tension, utilisent du courant triphasé. C'est-à-dire que les trois oscillations n'ont pas lieu en même temps, et les trois, en fait, se compensent. Quand vous avez trois câbles reliés ensemble, si vous êtes à plus de 10 fois la taille du câble, vous recevez pratiquement rien, parce que les trois champs magnétiques se compensent en permanence, parce qu'ils ne varient pas ensemble. Voilà. Et à l'intérieur de l'éolienne, c'est pareil. Et en plus, de toute façon, la génératrice, elle fonctionne grâce au fait que le champ magnétique est enfermé. Sinon, elle ne marcherait pas. Donc. Alors, ce tableau vous donne quelques comparaisons. Donc, vous avez la ligne souterraine qui sort de l'éolienne là, pour aller au réseau, à 10 mètres de l'axe, à 35 mètres de l'axe. Et vous voyez que les valeurs du champ magnétique sont très inférieures au seuil réglementaire. Et si vous comparez avec ce qui se passe dans la haute atmosphère, le champ magnétique de la Terre, c'est 47 microtesla en permanence, et il y a des fluctuations d'un microtesla lors des orages magnétiques du Soleil. Les éruptions solaires, ça oscille. Bon, et là, vous avez des instruments du quotidien à 300 mètres, à 30 mètres, 30 centimètres. Voilà. Bon, vous voyez que circuler, il n'y a rien à voir. Bon, le mythe, l'origine du mythe, c'est intéressant, mais je ne vais pas le dire. Alors, c'est du New Age, en fait, la géobiologie, les chakras, etc., les courants telluriques. Je n'ai pas le temps d'en parler, c'est intéressant, mais c'est des spéculations qui ne tiennent pas compte, en fait, des ordres de grandeur, c'est-à-dire le fait que ça existe et la preuve que c'est nuisible. Mais jamais on ne considère les amplitudes et de tension, intensité, et on jamais ne les compare à des références particulières. En fait, le raisonnement global correspond à faire à l'hypothèse que nous sommes des câbles électriques de milliers de kilomètres de long, voilà, dans lesquels alors il y a des courants induits. Donc toutes ces spéculations ne tiennent pas la route, il faudrait y revenir. Et en fait, si elles étaient vraies, on peut montrer que, étant donné les ordres de grandeur, on ne pourrait pas vivre à la surface de la Terre, rien que parce que la Terre est un aimant et que le Soleil nous envoie des trucs. Et pourtant, il y a des procès pour que l'exploitant pose des cristaux de quartz en bas du mât pour refocaliser les courants telluriques. Et alors, il y a soit des procès, soit dans l'ouest, sud-ouest, il y a un exploitant qui a accepté de le faire spontanément, il s'est dit que les cristaux de quartz, ça ne coûte pas cher. Et c'est moins cher que l'avocat, et donc voilà. Et alors c'est miraculeux, ça marchait. Les gens avaient tous la migraine, il a posé le cristaux solennellement, plus personne n'a eu la migraine. C'est authentique. Alors j'en ai parlé à quelqu'un qui a tendance à croire tout ça, et il a répondu, ben oui, c'est normal. Là. Bon.
On peut proposer des cristaux de quoi ?
Oui, bien sûr. L'impact sonore. J'espère que je ne suis pas trop long. Ça, c'est de l'humour aussi. Hein. Qu'est-ce qui fait le bruit de bruit ? Alors, à droite, c'est ma plaisanterie, c'est mon expérience de deux réunions publiques de concertation sur des projets de parc éolien. Donc, si quelqu'un parle en faveur du parc éolien, on sort les cornes de brume. Si quelqu'un parle contre le parc éolien, il parle 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. À la 15e minute, le président lui dit qu'il est temps de laisser la place à quelqu'un d'autre. Et alors là, ce sont les hurlements, déni de démocratie, totalitarisme, etc. etc. Cet épisode, c'est consternant. Et on voit la population locale au milieu, déjà très, en général assez âgée, qui sont complètement terrassés comme ça. Ils étaient venus s'informer. Et puis, c'est terrible, parce que c'est un dialogue. Voilà, là, il y a un problème grave. De méthode pour entrer en relation avec des gens. Je suis désolé pour les bases du bruit. Je suis désolé. Ah, on va venir là. Alors, je vais vous parler plusieurs fois du spectre sonore d'une éolienne, c'est-à-dire que le son est la superposition d'une multitude d'oscillations, chaque oscillation ayant une certaine fréquence, c'est-à-dire un nombre d'oscillations par seconde. Il se trouve que chaque oscillation a une amplitude, une intensité sonore. Et notre oreille n'est pas sensible, et notre appareil auditif n'est pas sensible également pour toutes les fréquences. Alors, à partir d'un spectre en décibels bruts qui est en haut, c'est-à-dire la relation entre le niveau sonore et la fréquence brute, mesurée par l'appareil, on multiplie par un coefficient pour obtenir quelque chose qui mime à peu près la réaction de notre système auditif. Et on a des décibels A. Et en fait, c'est calibré de telle façon que le décibel brut et le décibel A sont équivalent à 1000 Hz. Parce que c'est entre 1000 et 4000 Hz que nous sommes le plus sensibles. Voilà l'échelle typique qu'on présente tout le temps. Alors, la chambre à coucher, il faut qu'elle ait moins de 30 décibels de bruit ambiant. Sinon, c'est le début où on peut commencer à avoir des troubles du sommeil. Vos enfants, ils écoutent leur musique à 90 décibels dans les oreilles. Hein. Voilà, bien souvent, hélas.
Bon. Les ronflements,
normalement, s'ils font 5 heures par jour, ça devrait être 70, mais bon. Le marteau piqueur à 7 mètres, 95 à peu près. Le marteau piqueur, celui qui le tient, est à 120 décibels. L'avion en réaction, quand il décolle, vous n'êtes pas loin, 150. Voilà, et vous avez différents. La conversation à 1 mètre, c'est 60 décibels. Et les parcs éoliens, ben, ça varie, et donc c'est dangereux de mettre le parc éolien ici. Voilà, que ça dépend de la distance, ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend du sens, on va le voir, le sens du vent, la répartition des températures, les vitesses, de toutes sortes de phénomènes. Bon, le son est atténué par les parois de la maison, les chiffres, vous ne faites pas attention, mais il faut savoir que même les fenêtres ouvertes atténuent le son. Oui, significativement. Là, 5 décibels, ça veut dire que l'intensité est divisée par 3. Hein, une fenêtre ouverte, déjà. Et puis, quand elle est ouverte, vous. Voilà. Et quand elle est fermée, alors les murs. Atténue de ce qui est. Alors, si on est en dur ou en bois ou placoplâtre, c'est pas pareil. Et là, on a un problème dans les témoignages qui sont importés d'Australie ou des États-Unis. On a souvent des maisons en bois, la Suède pareil. Et puis, on amène ça en France où j'aimerais qu'on me dise combien il y a de maisons en bois. Voilà, c'est dans les zones rurales. En zone urbaine, on a du placoplâtre. Bon. Alors, l'effet du bruit sur la santé, alors c'est très simple, il n'y a aucun effet avéré en dessous du seuil d'audition. Si on l'entend pas, c'est clair qu'il n'y a pas d'effet. Bon, les effets sanitaires se manifestent quand même à des niveaux élevés. Les troubles des lésions et paralysies auditives, les troubles cardiovasculaires, si on entend 70 à 80 décibels toute la journée. C'est-à-dire, bon, nos enfants, justement, problème des ados. Bon, les troubles du sommeil, j'en ai parlé. Alors, dans le domaine des basses fréquences, si le niveau de bruit est pondéré A est supérieur à 32,5, il apparaît des troubles psychologiques, c'est-à-dire du stress, l'angoisse, etc. Mais heureusement, les parcs éoliens ne voient jamais ce niveau-là, parce que bon, on verra par le comportement des éoliens. La résonance à la cage thoracique, qui est un leitmotiv des opposants, en fait, se produit qu'à intensité forte et à des fréquences 50 à 80 Hz, qui n'ont rien à voir avec ceux qui disent qu'ils sont les infrasons. Voilà. Alors l'éolienne en tant que source de bruit, je vous fais remarquer au passage l'extrême laideur de ces machines. Donc, mais on va voir, on va entendre les enregistrements. Alors plusieurs enregistrements. Alors voyons ça. Alors certains faits par les opposants, d'autres non.
And a turbine in motion illustrates the rhythmic sound of the blades.
Entendez dessus. Donc là, c'est le ouf ouf. Chaque fois qu'une pale descend vers là où on est. Parce que le son émis par la pale est asymétrique. Et quand la pale s'éloigne, on entend l'air. Et on entend aussi le bruit de la mécanique qui continue. Voilà. Ça, c'est, on est dessous, là. Hein. Ensuite, celui-là, alors on va voir lequel. Et ça, c'est à 950 mètres. Alors attention, le problème est de distinguer le bruit d'éolien et le bruit de fond. Alors là, c'est quelqu'un hein, qui est chez lui, c'est un opposant, un protestataire. Donc il mesure le bruit total avec un appareil ici, un bruit ambiant, devant. Et il veut montrer que c'est supérieur à 40 décibels, qui est le seuil fixé par le gouvernement. Seulement, c'est un seuil qui est fixé dans le cas où le bruit de fond n'est pas supérieur. Alors là, en fait, si vous entendez le ouf-ouf de l'éolienne, vous êtes fort. Tu entends le ouf-ouf ? Tu entends le ouf-ouf ? Moi, j'entends un bruit de fond qui est plutôt continu. Attends, là. Je sais pas. Là, moi, j'entends le bruit. Ouais. Là, parce que le problème, là, c'est très amplifié, vous allez entendre les oiseaux, les animaux, mais il y a surtout le bruit du vent dans les arbres. On voit les. Là, voilà. Cela dit, en étant très attentif, on entend quand même une légère pulsation. T'entends le criquet ? C'est très amplifié, en fait.
Ça veut dire sûrement plus ou moins.
Voilà. Donc voilà. Alors, ça veut dire en fait que les enregistrements qu'on trouve sur Internet, le problème, c'est de savoir si c'est amplifié ou non, si c'est filtré ou non, parce que beaucoup d'appareils, là, si vous faites ça avec un téléphone portable, vous imaginez la qualité. Voilà.
Non, mais si c'est sur Internet, les opposants, c'est amplifié.
Non, mais souvent, voilà. Alors, c'est le cas ici. Alors. C'est amplifié, déporté, c'est pas des problèmes de. Vous voyez, donc, alors là, oui, on a dit quelque chose. Alors, le problème, c'est que là, visiblement, vu ce que j'entends là, c'est qu'il y a la boîte à vitesse qui est un peu usée, et il faut qu'ils viennent la réparer. Et le problème, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, au lieu d'appeler l'exploitant pour qu'il répare, ou qu'il arrête la machine temporairement, saisissent la presse. Excusez-moi.
Et sur le parenthèse, les ouvriers qui vont venir, c'est des Polonais ou des Espagnols.
Non, ici, Enercon, ils sont dans la région, là. Voilà. Alors ici, là, comment ?
Ça vous arrêtez quand vous êtes près d'une éolienne, vous constaterez que tout ce qui vient d'être monté, hein, c'est des sons amplifiés.
Oui, très amplifiés. Ouais.
J'ai trouvé
ces
plusieurs fois. D'accord. Et encore, il y a effectivement en Espagne, mais partout il y a une norme. C'est en bas, ça n'a rien à voir avec ça. Rien. Donc allez.
Ça fait penser à un bruit de certains systèmes d'aération.
Oui, mais c'est ça. Oui. Il faut savoir.
Oui, amplifié et déformé. Alors attends, tu vas voir, alors là encore, grâce à cet exposé, j'ai découvert par hasard un truc créé au Québec et qui a été transmis en Europe. Alors là, ça c'est vraiment. Écoutez. Coucou. Normalement, ça doit être. Normalement, ça doit passer moins d'une fois par seconde.
Oui, là, c'est pas le rythme n'est pas régulier.
Et c'est plus aigu. En fait, il a accéléré la bande, tout simplement. Soit, il y a deux possibilités. Soit, c'est une vieille éolienne d'autrefois qui tournait plus vite et qui grinçait. Ça existait. Soit, il a enregistré sur bande, il a accéléré.
D'accord.
Voilà. Mais ça, c'est une escroquerie, ça. Manifestement, c'est une escroquerie. Bon, alors, les éoliennes, le bruit aérodynamique est dominant, le tourbillonnement et le frottement de l'air. Mais ça dépend des machines, parce que les machines qui tournent plus lentes, qui ont un couplage indirect, ont une hélice qui peut être orientée optimalement tout le temps, ça fait moins de turbulences, c'est moins bruyant que d'autres machines qui ont une autre technologie. Donc il faut distinguer les cas. Quand on prépare un parc éolien qu'on l'annonce, il faut voir que les témoignages pour certains cas ne sont pas valables pour d'autres. L'autre source de bruit, en fait, il y a le multiplicateur, la boîte à vitesse, et la génératrice qui fait le courant. Là encore, il y a des éoliennes avec génératrice lente et pas de boîte à vitesse, ça fait moins de bruit. D'autres avec génératrice rapide et avec boîte à vitesse, elles font plus de bruit. Et la boîte à vitesse, si elle est usée, ça va être pire. Voilà. Les roulements aussi peuvent être usés au bout d'un certain temps, il faut les changer, et si on a trop tardé, ben, ça fait du bruit. Mais vous connaissez les pompes de piscine, quand elles sont usées, ça fait un couinement. Voilà. Donc il faut toujours donner la date, le lieu, la durée des témoignages, c'est jamais fait. Il y a des éoliennes antérieures à 2005 à peu près, la pale ne s'orientait pas. C'est-à-dire qu'elle était profilée de telle façon que si ça tournait trop vite, c'était plus optimal, la force aérodynamique diminuait, mais par contre ça turbulait beaucoup, ça faisait beaucoup de bruit. Et le plus fort, c'était les pales à aérofrein. Vous en avez une à Riols, près de Saint-Pons. À peu près toutes les 5 minutes, vous entendez... Voilà. Et ça... C'est l'aérofrein qui s'est ouvert automatiquement pour ralentir, et puis il se referme, et ça repart un certain nombre de minutes, et puis quand à nouveau ça s'emballe, ça refait ça. Alors bon, voilà, quoi, y a l'attitude du voisin, elle peut changer selon les cas. Il y a éolienne et éolienne aussi, là c'est à nouveau le spectre brut, l'intensité sonore, le niveau sonore en fonction de la fréquence d'oscillation, et là on voit très nettement que la génératrice, elle est bruyante. 150 Hz, 3 fois 50 en fait, et comme c'est partir d'octave, c'est centré sur 160. Voilà. Donc voilà un truc possiblement gênant, ce bruit. Excusez-moi. Il faut le dire, oui. Et puis il y a d'autres éoliennes où ce n'est pas le cas. D'accord, voilà. Le niveau sonore en général des éoliennes, c'est puissance maximale, c'est un tour de 100 sur procède de 50 mètres, 105, 110, quelque chose comme ça, décibels. Quand on y est, sur place, hein, c'est le niveau de source en assimilant toute la machine à une sphère de mètre. Et puis, voilà. Il y a éolienne et éolienne, vous voyez que le niveau sonore en fonction de la fréquence, ça varie beaucoup suivant le type d'éolienne. Alors celles qui ont le pic dans le maximum dans les basses fréquences sont moins gênantes. S'il y a deux pics comme ça, c'est très gênant. Hein, donc c'est, et puis il y en a qui sont globalement plus bruyantes ou moins bruyantes. Du coup, les témoignages devraient toujours être précisés, ce qui n'est jamais le cas. La modulation d'amplitude, le wouf-wouf, vous en souvenez, donc, elle est due au fait qu'on entend tantôt une pale, tantôt deux pales descendantes, donc le son monté descend, et est due aussi au fait que le vent est plus lent quand la pale est en bas que quand la pale est en haut, parce que le vent frotte sur le sol, donc plus on monte, plus le vent est rapide. C'est ça qui module le bruit. Et alors, on ne va pas voir les détails, mais le problème, c'est qu'un bruit modulé est plus gênant qu'un bruit continu. Et en plus, si la moyenne est sous le seuil d'audition, vous aurez quand même des pics une fois par seconde environ qui seront au-dessus. Donc si vous avez promis aux gens qu'ils n'entendraient rien, ça pose problème. Ils entendent. Pareil pour les seuils réglementaires, ils sont prévus en moyenne, et donc on a des pics de dépassement du seuil. Alors les riverains peuvent se sentir trompés si on leur a dit très naïvement, rassurez-vous, on est sous les seuils, vous n'entendrez rien, etc. Ça, voilà un problème d'ignorance du chef de projet qui crée un problème de relation. La propagation du son fonctionne à la distance à cette allure-là, c'est-à-dire qu'au bout d'une certaine distance, on se retrouve dans le bruit de fond, qui diffère de l'endroit où on est, bien sûr. Mais on laisse tomber les maths. Mais le problème, c'est que ça, c'est un modèle standard qui doit être nuancé, parce que selon la fréquence, selon la tonalité, l'absorption par l'atmosphère change, selon l'humidité, selon la température, et la turbulence, il y a le sol qui peut absorber ou réfléchir le son. La forêt, elle absorbe si l'éolienne est cachée par la forêt. Et puis il y a les obstacles durs qui peuvent couper le son, le réfléchir vers nous, au contraire, ou bien diffracter le son, et dans ce cas on a des zones où on a beaucoup de bruit, des zones où on n'a plus du tout, puis à nouveau beaucoup, puis à nouveau plus du tout. Voilà. Donc tout ça va obliger à nuancer les choses, et c'est pas tout. Ça c'est encore assez mineur. Quand je dis beaucoup de bruit, c'était 3 décibels de plus. Il y a le problème de la vitesse du vent qui s'élève quand on monte et ça courbe les rayons vers le haut quand on est en amont, vers le bas quand on est en aval. Et donc en aval, ça va augmenter le niveau sonore. C'est très bien, on dit que ça porte plus quand on est sous le vent. Voilà. Il y a aussi la répartition des températures. Le jour, il fait plus chaud au sol qu'en altitude. Ça dévie les rayons vers le haut. Et la nuit, ça va être des rayons tout droit, ou même parfois vers le bas dans certaines circonstances. Voilà. Donc on aura des phénomènes qui dépendent des conditions météo, qui peuvent amplifier le son en aval. Et alors, en fonction de la direction du vent, ben voilà, ça fait grosso modo ça. Grosso modo ça, si vous êtes en amont de l'éolienne, forte atténuation. Si vous êtes en aval, il peut y avoir une certaine amplification ou bien une atténuation selon les circonstances. Et sur les côtés, c'est par là, c'est le rouge. Mais en fait, c'est encore plus compliqué. Excusez-moi. En aval, oui.
On peut laisser l'intensité.
Je peux laisser l'ordinateur, si tu veux.
Ouais. Non, non, c'est pas branché à l'ordinateur. C'est le micro. C'est pas branché à l'ordinateur.
Ouais.
D'accord. Donc, si l'on compte le vent ou la température, bien, on peut avoir divers comportements. J'ai mis en jaune le standard, et puis un trait continu ou en tiré. Non, pas tiré. C'est le trait continu et celui tiré, point, là, comme ça. C'est ce qui se passe en réalité selon les circonstances. Voilà. Et alors, si vous avez promis à quelqu'un qui est à 80 mm qu'il n'entendra jamais rien, parce que la courbe jaune passe très en dessous, et bien en réalité, il pourra entendre dans certaines circonstances. Alors après, tout va dépendre de la psychologie, en fait. Hein. Ça peut se faire dans des circonstances qui ne sont pas fréquentes, mais qui existent. Voilà. Bon, je laisse tomber ça. Il y a aussi un cas exceptionnel quand il y a de la neige poudreuse. Il vient de neiger. Si vous avez une pente douce, vous voyez une éolienne dépasser à peine. Le son va en fait être absorbé par la neige poudreuse et la neige poudreuse se met à vibrer. Ça fait une onde transversale qui s'amortit beaucoup moins avec la distance. Et la vibration de la neige vous recrée du bruit là où vous êtes. Et dans ce cas-là, j'ai vu un témoignage de quelqu'un dans le Massif central où s'est produit visiblement ça. Alors voilà, de temps en temps, quand il vient de neiger que les poudreuses, il entend un bruit beaucoup plus fort. Alors d'habitude, il entend rien. Ben oui, mais bon, est-ce que c'est vraiment intolérable? Mais ça, les logiciels utilisés pour les études d'impact ne peuvent pas le prédire. Je viens de dire que ça arrive. Bon, quand le vent forcit, le bruit de front augmente et l'éolienne finit par disparaître vers le bruit de front. Et le problème est de choisir les distances et les lieux pour que ça se passe du mieux possible. Alors, en France, on utilise la notion d'émergence. Le détail importe peu. L'émergence, c'est la différence entre le bruit ambiant quand l'éolienne fonctionne et le bruit de fond dans les mêmes circonstances. Donc, c'est le potentiel de nuisance, c'est l'augmentation du niveau sonore ambiant par l'éolienne. Alors, le masquage, je passe vite. Disons qu'il faut que l'émergence soit très faible pour que ce soit complètement masqué. Sinon, le masquage est partiel. Les logiciels de simulation sont devenus perfectionnés. Ils tiennent compte de beaucoup de paramètres. Ce qui n'était pas le cas au-delà de 10 ans en arrière. Hein. Et maintenant, la photo en couleur, enfin l'image en couleur, c'est ce que vous obtenez avec le logiciel moderne. Le niveau sonore, la couleur représente le niveau sonore. Vous voyez que c'est subtil, selon le relief en fait. Ça dépend beaucoup du relief et de la nature du son. Par contre, auparavant, regardez le type de simulation qu'on avait. Alors en pleine, les deux sont équivalents. Mais dès qu'il commence à y avoir des reliefs, etc., voilà. Donc autrefois, ce qu'on faisait, c'est qu'on rajoutait quelques décibels de marge de sécurité. Ça marchait souvent et pas toujours. Bon, ça, je laisse. Voilà, par exemple, une mesure de bruit de fond près d'une habitation en vue de déterminer l'impact. Voilà. Donc, la réglementation limite l'émergence, elle limite l'élévation du niveau sonore ambiant dû à l'éolienne, quand l'éolienne fonctionne. Voilà. Elle est conçue comme ça. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'elle est moins sévère aujourd'hui qu'avant 2011. Et c'est le résultat d'une mesure qui a été prise à la demande des opposants. C'est-à-dire que, comme ils prétendaient que les éoliennes risquaient d'envoyer une tonne de pales d'éoliennes dans le toit d'une maison à 500 mètres, 1000 mètres, etc., ils ont dit qu'il faut leur donner le régime des installations classées. C'est-à-dire centrales nucléaires, usines chimiques ou des simples dépôts de carburant, parkings souterrains. Et le résultat, c'est que les installations classées ont un régime sonore différent, qui est plus ancien et qui est moins sévère. C'est consternant. Mais bon. Heureusement, si on tient compte du fait que même avec fenêtre ouverte, on perd 5 décibels, il y a un affaiblissement, Pour le sommeil, c'est pas grave, mais si vous voulez dormir dehors, ça, ça peut être embêtant. Alors là, voilà quoi. C'est une stupidité, ça non, ça, il faudrait qu'il le change. Heureusement, il y a d'autres critères qui rendent très peu probable quand même que le problème se pose beaucoup. Les infrasons, alors les opposants, ayant constaté que de toute façon le bruit audible à plus de 20 Hz était très bien connu et qu'on sait dans quelles conditions il est nuisible, ils ont évoqué les infrasons, j'en ai déjà parlé, des très basses fréquences, inférieures à 20 Hz. Et dit que alors c'est là que les fantasmes se sont accumulés. Alors là, Laurie Ponce, donc le médecin qui a jamais exercé en Australie, a qualifié d'experte maintenant, mais bon. Donc, elle dit qu'il peut faire vibrer les lèvres à 10 km, renverser quelqu'un. Elle dit, alors c'est génial, que certaines personnes sont si sensibles qu'elles ressentent les tremblements de terre qui ont lieu au Chili.
De l'Australie ?
Elle parle en Australie, oui. Alors, un témoignage que j'ai trouvé marrant, quand je suis dans ma voiture, les infrasons font balancer la voiture. À mon avis, c'est plutôt le vent. Mais bon. Alors, les infrasons, voilà, le seuil de perception est très élevé. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'ils sont inaudibles. La peau les perçoit à des intensités encore plus élevées, les sourds le perçoivent par la peau. Et puis on a des infrasons en permanence, tout le temps, dans quel soit l'endroit où on vit. Hein. Et j'ai mis des exemples. Et puis là, alors, il y a un schéma intéressant. Les infrasons créés par la cage thoracique, par le cœur humain, là j'ai mis l'amène, hein, et ceux qui viennent d'un parc éolien, au pied de l'éolienne, en mer sombre, ou à 500 mètres. Ce sont des exemples. Cela dit, la cage thoracique, ce n'est pas l'oreille. Hein. Alors, les effets à forte intensité sont ceux qu'on avait dit au début du Winterbourne syndrome, vous vous souvenez, donc d'où la focalisation sur le thème. Mais en réalité, les études épidémiologiques et les études en labo ont montré que, en dessous du seuil de perception qui est très élevé, il n'y a aucun effet. Il n'y a pas de résonance, je vais parler pour les ovaires, etc. Alors voilà un exemple. Donc en Grande-Bretagne, un parc éolien, mesure faite à 360 mètres de l'éolien le plus proche. En noir en bas, c'est le bruit donc infrasonore est audible quand ça ne marche pas, il y a un vent très faible. Puis quand il y a du vent, il marche à bas régime et à haut régime. Voilà. Et là-haut, les couleurs, c'est le seuil d'audition qui a été déterminé en laboratoire. On est très très en dessous et on est pourtant à 200 mètres, à 360 mètres. Et en réalité, il y a d'autres expériences qui montrent que 200 mètres, déjà, c'est comme ça. Autre exemple, alors ça, on laisse. En Australie, un des parcs éoliens les plus contestés, dès avant qu'il soit construit. Et ça continue après. Alors vous voyez, ce qui est intéressant en vert, c'est le seuil de sensibilité. En rouge, c'est les mesures du parc éolien, donc à 85 mètres, 185 et 360 mètres de la plus proche éolienne. En bleu, c'est le niveau infrasonore sur une plage à 200 mètres de l'eau. En bleu, là. Voilà. Et en noir, c'est le niveau dans une maison qui est à 1200 mètres, voilà, ou devant ou dans la maison. Donc déjà, à 360 mètres, vous êtes en dessous du niveau infrasonore causé par la mer sur la plage. Voilà. En gris clair, c'est une forêt sans mort. Elle c'est plus poétique, c'est ça le truc. Bon, je saute. Alors, il y a eu des échappatoires, c'est-à-dire que la première échappatoire, c'est de dire oui, mais l'effet s'accumule. Dans le labo, ils ont travaillé sur une heure, ou dans les usines, c'est 8 heures par jour. Le problème, c'est que les témoins disent qu'ils ressentent les effets tout de suite. Et deuxièmement, à Palavas, ils deviennent pas fous. Quoique. Je ne ferai pas d'allusion politique. L'échappatoire 2, c'est de dire que les études ont été faites à des fréquences trop élevées. En réalité, c'est entre 0,1 Hz et 2 Hz que le problème est important. Plus forte menace. Ça n'a pas été expérimenté en labo. Mais là, il y a un problème, c'est que la planète a des micro-barons. C'est un infrason qui parcourt toute l'atmosphère en permanence. À 0,2 Hz, à peu de choses près. Niveau sonore, 75 à 80 décibels, c'est-à-dire bien plus que ce que nous envoient les éoliennes. Et c'est permanent. C'est stimulé par les tempêtes, les volcans, la houle, tout ça. Et vous avez des exemples aussi à l'entrée de l'oreille. Un enfant qui fait de la balançoire, 110 décibels à 0,5 Hz. Un marcheur, 75 décibels à 0,5 Hz. Et le bruit interne naturel dans l'oreille quand on bouche. 95 à 100 décibels, c'est colossal. Bon, à cause de la circulation. Donc finalement, circuler, il n'y a rien à voir. En fait, si les infrasons des éoliennes avaient un effet, on ne pourrait pas vivre, on serait tous morts depuis longtemps, c'est clair. Pour d'autres raisons, justement. Ça, je laisse tomber. Les vibrations, bon, les vibrations, alors je vais passer vite, parce que là aussi on dit que ça fait trembler toute la vallée, tout ça. Ça, c'est un enregistrement intéressant, à 92 mètres d'une des éoliennes d'un parc de 62, en Nouvelle-Zélande. Alors ils ont fait des expériences, hein, ils ont à 5 mètres du capteur, puis à 10 mètres du capteur, puis à 50 mètres du capteur, ils ont testé, tapé sur le sol avec un marteau, tapé dans un buisson, là, rhododendron, quoi. 5 personnes qui sont ensemble, une car qui est le moteur au ralenti, une car qui avance et recule, un marcheur 50 mètres avant et arrière, et un coureur. Tout ça, c'est le rouge, plus des bruits parasites là, en rouge. Et puis le bleu et le vert, c'est les éoliennes, à 92 mètres de l'éolienne. Bon, sans commentaire. En Allemagne, ils ont fait des mesures aussi, ailleurs aux États-Unis. Enfin, c'est tout cohérent. Hein. C'est très, très en dessous du seuil de perception, vitesse 0,1 mm par seconde. Les autoposants disent que ça déclenche des nausées. En réalité, c'est environ 50 fois en dessous du seuil qui déclenche les nausées. La plus forte, c'est qu'ils citent les mêmes articles pour dire le contraire. C'est assez intéressant, quoi. Évidemment, ils passent par un raisonnement spéculatif intermédiaire, absolument. Voilà. L'origine du mythe des infrasons et des vibrations, c'est les anciennes éoliennes de NASA, mode 1. En fait, c'est les premières éoliennes de grande taille, sauf une qui avait été testée en 1947, et qui avait une hélice en avant du mât, en arrière du mât plutôt. Et donc, le vent était coupé périodiquement à chaque passage. Donc, ça faisait une impulsion boum-boum, quoi. Et le mât était en treillis, il vibrait lui aussi. Donc, ça faisait des trucs très désagréables, et les riverains ont tellement protesté que ça a été tout de suite arrêté. Ça a fait quelques articles scientifiques. Et ces mêmes articles, 20, 30 ans plus tard, sont ressortis. Voilà. 30 ans, 35 ans, en fait, voilà, quoi. Puis alors, le mythe, bon, il faudrait là aussi... Alors, le mythe des infrasons, il y a l'affaire Tournesol, qui reprend des travaux des nazis, qui espéraient de détruire des villes rien qu'en faisant du bruit. Une expérience d'un chercheur du CNRS de Marseille qui a rendu un de ses subordonnés sourd à vie en faisant une expérience complètement folle. 150 à 160 décibels à basse fréquence. Pas des infrasons, mais il a titré son article avec infrasons. Alors que le contenu ne concerne pas ça. Et donc ça a été exhumé par les opposants au parc éolien. Et puis l'expérience américaine de ce défi incapacitant, nausée, angoisse, des infrasons à grande intensité. Le problème, c'est que de toute façon, les émetteurs d'infrasons, si c'est un truc de portée d'un fusil, il est plus gros que l'homme qui le porte. Si c'est à une portée plus grande, il est plus gros que le véhicule. De toute façon, ça ne sert à rien. C'est tout. Alors, les vibrations de la maison. Ça, c'est important. Parce que ça a été longtemps nié, en fait, c'est vrai. Soit le son, soit les vibrations du sol, soit le vent, peuvent mettre une maison en vibration. D'accord ? Et, cette vibration peut être amplifiée dans certaines pièces par résonance, et le son plutôt qui ça produit peut être amplifié à certains endroits. Et là, vous avez un exemple, le noir, la trait noire avec le bleu autour, c'est le bruit au milieu d'une pièce, d'une chambre. Et le rouge et les noirs qui l'entourent, c'est sur les bords, notamment le rouge, c'est le lit. Vous avez facilement 10 décibels de plus. Problème. Et ça arrive rarement, ça arrive surtout de la tenir à 300 mètres, ce qui n'est pas possible en France, mais ça arrive. Et en plus, quand ça se met à vibrer, les murs, vous avez les objets qui s'entrechoquent sur les étagères, c'est encore pire, les fenêtres qui vibrent. Alors là, la variation selon qu'on est au milieu, sur le lit, etc., elle est documentée, mais toujours dans des pays anglo-saxons, pas en Europe, où on ne fait pas comme ça. Mais ça, c'est des mesures faites. La preuve que le vent, à lui seul, quand l'éolienne est arrêtée, la maison continue à vibrer. C'est clairement le vent.
Il faut t'éclairer.
Alors, le problème, c'est les témoignages, il faudrait les filtrer, mais ils ne sont pas assez précis. Alors, les remèdes sont simples. Hein. Si la fenêtre vibre, vous l'alourdissez, c'est la pâte de double vitrage, vous mettez un double vitrage. Si elle a déjà un double vitrage, vous mettez des coussins là, sur la jointure. Les cloisons, vous pouvez les doubler pour isoler, et par la même occasion, vous supprimez le problème. Ce qui fait que si les isolations thermiques de la maison ont déjà été faites, il est légitime de demander à l'exploitant de financer la modification de la maison, après tout. Hein, moi, je pense que ça devrait être dans la loi, et si l'expertise a prouvé que l'éolienne est en cause, pourquoi pas. Alors, si l'isolation thermique est déjà faite, parce que normalement, tout le monde devrait la faire, quoi. La seule excuse, c'est les maisons normandes parce qu'elles sont à torchis et pourrissent si on les isole. Donc, voilà. Alors, la gêne des effets sanitaires. Alors ça, c'est intéressant. Bon, un grand nombre d'études ont été faites maintenant sur des centaines de personnes, donc ça devient sûr. Alors, le pourcentage de personnes plutôt gênées ou très gênées, en fonction d'un niveau sonore, quand le vent est à 8 mètres par seconde, estimé selon la distance, enfin, c'est approximatif. Et alors, on constate qu'il y a un comportement global cohérent entre la Suède et les Pays-Bas. Mais par contre, les points noirs en bas, c'est le niveau de gêne des gens qui touchent de l'argent, qui participent aux bénéfices. Ils sont moins gênés par le bruit, spectaculairement. Bon, j'ai mis non transposable la France sur la droite, parce que c'est des niveaux sonores qui, étant donné la réglementation française, ne peuvent pas être atteints, de toute façon. Donc, et à gauche, là, c'est ce qui se produit couramment en France, et entre les deux, il faut voir selon les cas. Et en fait, à la page suivante, on voit que c'est la ligne du bas, là, les carrés clairs qui sont plutôt significatifs. En France, donc, 7% se disent gênés par le bruit quand ils vivent à moins de 1000 mètres. Alors, les opposants disent que la gêne sonore ne dépend pas de la distance, donc on ne peut pas m'opposer, oui, mais ce n'est que 1000 mètres, c'est pas 500, ou c'est comme ça. Ils disent que c'est indépendant. Le nombre de témoins qui se déclarent victimes de troubles sanitaires est faible lui aussi. Alors, la Fédération Environnement Durable, qui est le cœur du lobby intérieur au niveau national, a présenté au Parlement 169 témoins, qui disaient parler de 511 personnes. Voilà. 0,01%, l'ordre de grandeur, c'est 0,01% de la population résidant à moins de 5 km. Ce qui est intéressant, c'est les causes possibles et les conséquences possibles. Ça, c'est intéressant. Regardez ici, d'abord, des mesures de stress sur un certain nombre de personnes. On a mis des instruments en permanence sur les personnes. Concentration de cortisol, tension artérielle, qualité du sommeil. Bien, il n'y a pas de lien avec le niveau de bruit envoyé par l'éolienne, reçu de l'éolienne. Des témoignages donc de migraines, stress, tout ça, de mauvais problèmes de sommeil, troubles cardiovasculaires, troubles auditifs, autres maladies, pas de lien avec le son qui vient de l'éolienne, le niveau sonore venu de l'éolienne, avec la valeur. Mais il y a un lien, mais par contre il y a un lien avec la gêne, le fait de se sentir gêné par le bruit. Du moins pour le stress, les troubles psychologiques divers et la qualité du sommeil. Là, il y a un lien avec le fait de ne pas aimer ce bruit-là, d'être gêné par le bruit. Mais pas par le niveau du bruit lui-même, la valeur n'a pas d'importance. Alors on peut continuer. Avec quoi est associée la gêne sonore? Quelles sont les causes possibles? Et là on constate une énorme liaison statistique avec le fait de voir les éoliennes à niveau de bruit identique et avec le fait de toucher de l'argent. C'est un lien statistique qui est du même ordre de grandeur que le lien entre tabac et cancer. C'est énorme. Et par contre, avec le niveau sonore, c'est très faible. Avec l'impact paysager, ça devient plus fort quand même. L'opinion sur l'utilité, négative, c'est bien fort. Sensibilité générale au bruit, si on est plus sensible, évidemment. Et le niveau d'études. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on a une gêne liée au niveau sonore via autre chose, visiblement. Et il est prouvé que les éoliennes ne causent pas le réveil nocturne, et on est réveillé par autre chose, et puis une fois réveillé, on entend les éoliennes et on dit que c'est leur faute. Et anecdote amusante, en Angleterre, quelqu'un qui est réveillé plusieurs fois par semaine par des coups de boutoir, test à l'extérieur, rien, test à l'extérieur, on entend boum boum, on fouille, c'était la machine à laver qui était programmée pour démarrer à 3h du matin, et quand elle est arrivée à l'essauvage, elle secouait toute la maison. Voilà. Ouais. Et alors aussi, une autre anecdote, c'est des touristes. Un hôtel, c'était le parc éolien dont j'ai montré tout à l'heure les mesures là, avec la mer, tout ça. Un hôtel, les touristes passaient la nuit, le matin, ils disent au patron, on a vraiment très mal dormi avec ces éoliennes. Les éoliennes, on ne les entend pas du tout. Je vous garantis qu'on les a entendus toute la nuit. Ils montent, rien, ils ouvrent et le touriste ouvre la fenêtre, il dit, vous n'entendez pas, mais ça c'est la mer. Voilà. Je suis désolé d'être long, mais ça c'est intéressant, l'effet nocebo qui a été expérimenté en laboratoire, c'est spectaculaire, l'effet des discours. En fait, ils ont donc des sujets, 54 sujets répartis en deux groupes. Les uns regardent une vidéo qui dénonce l'impact sanitaire des infrasons, et l'autre vidéo qui dit qu'il n'y a aucun problème. Et on fait l'expérience de les exposer à un bruit contenant des infrasons, et un bruit ne contenant pas d'infraction, en leur disant chaque fois qu'il y a des infractions. Et on constate que la vidéo qui était alarmante a énormément augmenté, enfin très significativement augmenté, le nombre de personnes qui déclarent, le nombre de symptômes de malaise déclarés. C'est-à-dire qu'on part d'un nombre avant l'expérience, qui est là à gauche, déclaré par les gens, j'ai la migraine aujourd'hui, etc. Et l'intensité est indiquée en bas. Et puis, quand on expose au son, d'abord, qu'il y ait des infrasons ou pas, ça ne change rien. Il suffit de le croire. Et il faut avoir entendu un discours négatif. Un autre exemple, c'est l'effet placebo. Hein? C'est-à-dire qu'on a fait entendre à deux groupes, les uns une vidéo alarmante, une autre une vidéo rassurante. Je dis bien rassurante. On a relevé le niveau de malaise de chacun. Et puis on leur a fait entendre une vidéo alarmante. Les deux groupes. Ceux qui avaient d'abord eu la vidéo rassurante n'ont pas le même résultat que ceux qui ont eu la vidéo alarmante. C'est ça, oui, voilà. Et en fait, on a un effet placebo. Hein, et en fait, c'était celui-là plutôt. C'est-à-dire qu'on a une réversibilité totale dans cette expérience-là. Si quelqu'un a entendu la vidéo négative et qu'ensuite on lui fait écouter la positive, eh bien, les malaises qu'il avait déclarés disparaissent. C'est intéressant, je trouve. Voilà. Donc, ça suggère une solution pour mettre fin au problème, c'est déjà d'arrêter la propagande, style le matraquage, et déjà expliquer ça, quoi. Alors, intéressant aussi, moins il y a d'éoliennes, plus j'en crois qu'elles sont nocives. Ça, c'est un exemple aux États-Unis, avec les États du Middle West, les États similaires, je crois. Hein. Voilà. Alors, c'est spectaculaire. Et c'est dans les états où il y a le moins d'éoliennes que le lobby anti-éolien est massivement actif. Mais là, c'est une boucle rétroactive. Mais par contre, voilà. Les plaintes et vos réclamations auprès de l'administration, en Australie, eh bien, les états sans activisme anti-éolien n'ont aucune plainte, quel que soit leur niveau d'équipement. Et des états à fort activisme anti-éolien ont pas mal de plaintes. Hein, c'est très clair. Voilà. Mais c'est mieux, plus intéressant. C'est la chronologie. Les plaintes apparaissent après l'arrivée des militants. Voilà. J'ai repéré une exception dans le fichier. Le fichier est très long et j'ai repéré une exception. Et là, un exemple, un parc éolien fonctionne 13 ans et demi, aucune plainte, arrive des activistes, 4 plaintes. Tout de suite. Il y a des effets énormes. D'où mon diagnostic, hein, c'est que la gêne sonore résulte donc de la synergie entre le fait de percevoir, pas forcément l'intensité, le fait de percevoir auditivement, le fait de voir, ou de savoir qu'elle est là, parce que si on ne la voit pas tout le temps, c'est quand même... l'opinion a priori, et la croyance à la nocivité. Et donc, effet nocebo et boucle rétroactive, ça s'amplifie, ça mène à des troubles de santé. Parce qu'on est angoissé, on attribue tous les problèmes aux éoliennes. Et voilà. Et plus on a des troubles renforcés, plus on témoigne. Et les témoignages renforcent la croyance, et ainsi de suite, la croyance des autres. D'où ce dessin que j'ai trouvé quand même. Voilà, donc ça c'est la conclusion que je viens de faire, mais c'est intéressant, j'ai lu deux expressions marrantes. Simon Chapman disait que c'était une maladie communicative, le syndrome éolien, et Samuel Colbert, qui est un humoriste canadien, disait que c'était une maladie textuellement transmissible. Il faut la ressortir celle-là parce qu'elle est vraiment bien. Ouais. Bon, les solutions, je l'ai dit. Alors, je ne pourrais pas parler de qui sont les opposants, j'ai plus le temps, je crois, mais à moins qu'il y ait des questions. Déjà, les solutions, ce serait que les porteurs de projets soient conscients, les chefs de projet soient conscients des vraies propagations des sons, du fait que c'est pas si simple, qu'il faut être soigneux et ne pas prétendre qu'on n'entendra rien, parce que c'est pas vrai, sauf à 10 km. Il faudrait revenir que volontairement à l'ancienne réglementation, mais je sais qu'il y a des exploits des porteurs de projets, des groupes qui le font, ça. Ils tiennent pas compte du nouveau parce qu'ils savent qu'ils auront des ennemis. Donc ne pas prétendre qu'on n'entend rien, faire participer les riverains au bénéfice, et c'était notre but à nous et notre petit parc, la population posséderait la moitié du capital, c'était bien. Proposer de payer l'amélioration de la maison s'il y a des problèmes d'innovation. Et puis les associations scientifiques et les individus, moi je pense qu'il y a combattre la propagande avec des agréments scientifiques, vraiment mettre en évidence les phénoménaux. Dénoncer, alors c'est là que je n'ai pas pu en parler, l'alliance entre néolibéraux et altermondialistes, parce qu'en fait le cœur du lobby anti-éolien, c'est ça. ceux qui disent qu'il y en a marre du capitalisme et l'intrusion du capitalisme dans notre nature sauvage. Et puis d'un autre côté, les néolibéraux qui disent qu'il y en a marre de déroger au marché avec des règles tarifaires, etc. etc. Il faut envoyer l'info aux élus et aux journalistes autant qu'au public, parce que malheureusement, les journalistes sont incroyables. Et puis moi, je pense que carrément, il faudrait attaquer en justice les propagateurs de faux faits qui rendent les gens malades, après tout.
Les écologistes, c'est la roue, là. Les écolos.
Parce qu'après tout, il y a un effet nocebo tellement spectaculaire. Je vais parler de celui que, dont le témoignage me faisait penser qu'il allait se suicider. Ben, la famille porte plainte dans ce cas-là, je pense. Si, voilà, quoi. Y a, à condition qu'elle arrive à convaincre un juge de l'effet nocebo. Mais alors là, on peut se lever très tôt.
Les écologistes pensent oui. Quoi
Ça dépend.
Parce que là, ils sont quand même un peu tiraillés.
Et ils sont tiraillés, bien sûr, oui, tout à fait. Mais ça dépend desquels.
Pas forcément.
Mais moi, j'ai vu des gens qui sont très militants pour les énergies renouvelables dans les zones rurales, et puis dès qu'il s'agit d'en mettre chez eux, tout d'un coup, ils sont plus d'accord. Alors, voilà. Regarde, j'ai fait, puisque vous en parlez, j'ai bien aimé ces trucs. Alors, certains sont connus, d'autres non. Alors, pas à mon arrière-cours, pas durant mon mandat, pas une année électorale, pas sur la planète Terre, citoyen contre à peu près tout, et puis ne construisez absolument rien nulle part près de nulle chose. C'est ça, en fait, le truc. Ouais. Et puis les idéologies, donc le néolibéralisme, et le... Alors, je vais très vite. Alors, la présence du nucléaire parmi... le lobby anti-nucléaire, bon, ça c'est la Fédération nationale, l'environnement durable qui est coordonne, attention, hein, donc vous avez bon, les chefs, là, donc un néolibéral plein jus, Jean-Louis Guttré, Giscard d'Estaing, un châtelain, mais aussi père du tout nucléaire, de niveau politique, il nie, ça a changé, je crois, le changement climatique, bon, c'est lui qui a introduit le néolibéralisme en politique, hein. Marcel Watteux, ancien PDG d'EDF, qui a mené de bout en bout le programme nucléaire, donc il est devenu écolo à la sauce anti-éolienne. Henri de Rincourt, donc, qui est un néolibéral à fond, il est contre tous les services publics, c'est que du gaspillage, il faut virer les fonctionnaires. Christian Gérondeau, même veine, il a écrit des livres à ce sujet, et il nie le réchauffement climatique. Puis ainsi de suite, quoi. Le corps des mines est très puissant là-dedans, parce que c'est des ingénieurs des énergies non renouvelables. Et alors l'association Sauvons le climat, qui est malicieusement surnommée Sauvons le nucléaire, la proportion de travailleurs du nucléaire est différente. Donc la moitié des conseils scientifiques, plus la moitié, et pareil au conseil d'administration. Aucun spécialiste des énergies renouvelables. Et il y a Jean-Marc Yangovic dedans, je vous demande ce qu'il fout là. Voilà, c'est bon. Voilà, voilà, bon alors, ouais, le dernier, bon... J'ai déjà parlé de vos bras. Celui-là, c'est génial. C'est un naturaliste français, Marc Duchamp. Voilà. Donc, il nie le changement climatique, il condamne les énergies renouvelables. Il a fait une association mondiale d'associations diverses. Chaque fois que vous entendez dire qu'il y a consensus scientifique sur quelque chose, tâtez votre porte-monnaie car vous êtes fait avoir. Ça va être Trump, ça. Voilà. Alors, c'est marrant parce qu'il est cité comme référent scientifique dans le plan national d'action pour l'aide de Bonelli. Ça m'a scié. C'est voilà. Alors bon. Voilà. Alors, si vous avez des questions.
Comment ?
Non, c'est magnifique. C'est bon.
J'ai réussi à gratter.